Jésus soit béni, bonjour mes frères et bonjour mes sœurs, bonsoir. Que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse ce soir et un grand merci de ce qu'il a mis dans nos cœurs, ses bonnes dispositions pour que nous soyons présents pour lui rendre ce culte. Amen. Avez-vous passé une bonne journée? Ça a été? Avec la grâce de Dieu? Puisque nous savons que c'est par ses bontés que nous jouissons de la vie. Tout nous vient de lui. Et même Ézéchias, dans son cantique, après son relèvement, a pu dire à Dieu, non seulement c'est par ta bonté que je jouis de la vie, mais il a rajouté, c'est par elle que je respire encore. Et pour nous, même si nous ne sommes pas Ézéchias, c'est un peu le même principe et le même processus divin, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu renouveler en nous son souffle de vie, puisque le souffle que nous possédons, c'est lui qui en est autant le propriétaire que le dispensateur. C'est lui qui dispose de notre souffle. Mais oui, parce que c'est lui qui nous a rappelé dans l'Apocalypse qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, et par conséquent, par rapport à ce fait, il tient aussi le souffle de tout homme. Notre souffle, c'est lui qui le tient dans sa main et dans sa bonté aujourd'hui. Non seulement notre Père a renouvelé à notre égard ses bontés et ses compassions qui ne sont pas épuisées, mais notre Seigneur Jésus-Christ, dans son office céleste, comme notre grand souverain sacrificateur, il a intercédé auprès du Père en notre faveur. Est-ce que vous le croyez? Oui, il a intercédé en notre faveur, puisque c'est là un des aspects de son office céleste. Et en même temps, puisqu'il a intercédé auprès du Père en notre faveur, il a renouvelé en nous son souffle de vie. Et nous sommes heureux ce soir, puisque son Esprit Saint qui habite nos cœurs, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire, et c'est lui qui a mis en nous ses dispositions pour que nous puissions être présents pour rendre le culte à notre Dieu. Et ce culte, dirigé par la main de notre Dieu, conduit par le Saint-Esprit avec autant la direction que l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, a pour but que Dieu, notre Père, soit glorifié. Quand nous venons rendre le culte, c'est pour que Dieu soit glorifié. Et tout à l'heure, nous allons le voir dans l'Écriture, comment un des aspects particuliers du culte, qui n'est pas du tout négligeable, eh bien, notre Seigneur, ce soir, va nous permettre de nous y arrêter et d'en considérer quelques points scripturaires comme des paramètres importants à ses yeux, et qui nous seront révélés pour nous amener à plus de connaissances. Et la connaissance, nous le savons, lorsqu'elle nous est donnée, c'est pour que nous soyons conduits à nous en faire chacun une application personnelle dans le but d'être agréable à Dieu. Amen. Donc tout un plan béni qui se déroule, que Dieu a préparé, qu'il met en œuvre, et qui permet que nous, ses enfants, nous puissions en avoir connaissance, et que chacun puisse en tirer un profit. Parce que rendre le culte à Dieu, c'est quelque chose qui est important à ses yeux, mais encore faut-il que dans ce cadre-là, nous, comme enfants de Dieu, nous sachions ce que c'est que rendre un culte. Et je suis persuadé que si je vous posais la question ce soir, qu'est-ce que c'est que rendre un culte à Dieu, mais beaucoup de réponses me seraient données, plus ou moins cohérentes les unes que les autres. Mais sous l'angle divin ou devant Dieu et à ses yeux, il veut que nous ayons véritablement une connaissance pour que lorsque nous nous approchons ou que nous venons non pas au culte, nous ne venons pas au culte, mais nous venons rendre le culte. Parce que quand j'emploie le mot « rendre », je place l'enfant de Dieu dans sa position de débiteur. On ne peut rendre que ce qu'on doit. Et ce soir, nous devons à Dieu le culte sous forme d'adoration, sous forme de louange, sous forme d'action de grâce, enfin sous divers aspects où le Saint-Esprit dans nos cœurs va nous conduire à nous y arrêter ce soir. Alors, regardez avec moi, frères et sœurs en Christ, J'étais en train de vous expliquer ce que c'est ou comment nous pourrions définir rendre le culte. Dans l'aspect de rendre le culte à Dieu, lorsqu'on rend le culte, on rend un culte à quelqu'un, par exemple, vous avez sûrement entendu cette expression lorsqu'on parle de quelqu'un, regardant constamment à lui, se faisant un peu comme cela se dit, du nombrilisme. C'est-à-dire, il est en train de manifester ce qu'on a défini comme étant le culte de la personnalité. Vous avez déjà entendu ce terme, n'est-ce pas? Et celui qui a le culte de la personnalité, il va constamment agir pour se valoriser, se donner de l'importance. Et fort souvent, une importance plus grande que la réalité de ce que cette importance a aux yeux des autres. Mais pour lui, il va toujours chercher à se mettre en honneur, se valoriser, se donner de l'importance. On appelle cela le culte de la personnalité. Vous êtes d'accord avec moi? Mais du côté de Dieu, lorsqu'on dit rendre un culte, cela veut dire il faut considérer l'aspect, lorsqu'on rend le culte, c'est rendre ou adresser des hommages. N'est-ce pas? Parce qu'on rend un culte à Dieu, on lui adresse des hommages. Mais adresser des hommages à quelqu'un, en l'occurrence à Dieu notre Père, va nécessiter une première réalité. Par exemple, si je dis je vais rendre un culte, je prends une image, hein, je rends un culte à mon frère Marc. Non, j'ai dit supposons. Je prends une image. Vous avez bien compris que je ne peux pas rendre un culte à Marc. Marc, c'est un frère. Mais supposons que je dis que je lui rends un culte. Alors, obligatoirement, dans le fait de lui rendre un culte, la première chose que je vais faire, je vais le... Et bien sûr, je ne peux pas dire, Marc, je te rends un culte et puis je regarde ailleurs. Non, la première chose, c'est quand je rends un culte à quelqu'un, je le regarde. Rendre le culte, c'est adresser des hommages, premièrement, en regardant. Et ce soir, nous sommes venus rendre le culte à Dieu. Et le Saint-Esprit, dans le culte que nous sommes venus rendre à Dieu, nous conduit à fixer nos regards, non pas sur Dieu, puisque Dieu est esprit, mais il nous donne à regarder à celui qui l'a envoyé, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils est l'empreinte de sa gloire. Le Fils en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus le Fils, c'est celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et ce soir, en lui rendant les hommages, en rendant les hommages à Dieu, le Fils, c'est celui que nous voyons ce soir dans notre esprit, dans nos cœurs et dans sa parole couronnée de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, car il convenait que celui par qui et pour qui sont toutes choses, c'est-à-dire Dieu notre Père Céleste, et qui voulait amener à la gloire beaucoup de fils, vous, moi et tous les enfants de Dieu sur la terre, il est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Rendre les hommages à Dieu ce soir en fixant nos yeux sur Jésus-Christ. Et quand je fixe mes yeux sur Jésus, alors Jésus me donne à fixer mon regard sur le Père. Je sais que Dieu est esprit. Je sais que dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, versets 17 à 18, il nous est rappelé que personne n'a jamais vu Dieu. Mais en même temps, il nous est montré que le Fils, Jésus, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, est celui qui est venu le révéler aux hommes. Et puis, dans ce même contexte, frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus a envoyé les apôtres en mission, et qu'ils reviennent de mission après que le Seigneur leur eut donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies, lorsqu'ils reviennent de mission, ils s'exclament devant Jésus et ils disent « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alléluia! Belle déclaration! Le Seigneur Jésus-Christ va leur confirmer, eh bien, leur disant que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc, le fait ou la raison, c'est que Jésus, comme Fils de Dieu et Dieu lui-même, voyait dans le monde, dans les lieux atmosphériques, la puissance de Satan qui était ébranlée. Il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, leur dira-t-il, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Donc, le Seigneur va profiter de cette occasion pour expliquer une réalité spirituelle ô combien importante. Il leur dira que le Fils, lui, Jésus-Christ, c'est dans Luc 10. Ce que je vous dis, c'est dans Luc 10, verset 21. Pour que l'expression soit juste, regardez avec moi. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et que va-t-il faire? Il va louer Dieu. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc, Jésus est venu nous faire connaître le Père. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et voici ce qu'il rajoute qui nous intéresse ce soir. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et quand Jésus nous révèle le Père, c'est pour que nous soyons de vrais adorateurs, rendant à Dieu les hommages, rendre hommage en regardant. Nos yeux sont sur Jésus ce soir, et Jésus nous montre le Père. Rendre hommage ou rendre le culte, frères et sœurs en Christ, c'est rendre les hommages autant en regardant, mais aussi en admirant. Alléluia. Il y a quelque chose d'admirable ce soir qui nous est montré. Quelqu'un d'admirable. Admirable conseiller. Dieu puissant, Père éternel. Et je comprends parfaitement dans le psaume 45, si je ne me trompe pas, lorsqu'il est dit de Jésus, tu es le plus beau des fils de l'homme. Et la grâce est répandue sur tes lèvres. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Alors je dis, mon œuvre est pour le roi. Alléluia. Ce soir, pour qui est ton œuvre, mon frère? Ah oui, pour le roi. Tu n'es pas trop sûr de ce que tu me dis, hein? Car si ça ne sort pas spontanément de ton cœur, de ta bouche. Oui, mon œuvre est pour le roi ce soir. Je suis venu pour le roi. Je suis venu pour partager la communion fraternelle, mais je suis d'abord venu pour le roi. Et le roi, c'est? Ça me fait souffrir. Nous sommes plus de 500 ce soir. Peut-être pas tout ça. Et quand je dis c'est qui le roi? J'entends quelques petites voix qui s'élèvent de manière éparse. Mais tous d'une même voix devaient prononcer Jésus. Qui est le roi ce soir? Oh, Benjamin, ça me fait souffrir, mon frère. J'aime bien que lorsqu'on pose une question similaire, ça sort des tripes du cœur. Au fond de nous, ça bouillonne. Frères et sœurs en Christ, nous sommes sur un terrain particulier ce soir. Le terrain du culte à rendre à Dieu. Oh, on ne peut pas rendre le culte différemment qu'en regardant à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous montre le Père. Regardez en admirant. Tu es le plus beau des fils de l'homme et la grâce est répandue sur tes lèvres. Regardez en admirant, mais on va aller plus loin que l'admiration. On va monter à l'échelle supérieure en contemplant. Regardez admirer, contempler. Et puis, le dernier verbe, dans l'aspect de rendre les hommages, regarder, admirer, contempler, mais le tout en s'extasiant sur ce que je vois. Et lorsqu'on s'extasie sur ce qu'on voit, la bouche est fermée, mais on contemple. Les paroles sont peu nombreuses, on se tait. Et on est dans le moment où on est dans une telle admiration, contemplation, on s'extasie de ce qu'on voit. Est-ce que c'est ton cas ce soir, mon frère? Alors, si c'est le cas, béni soit Dieu. Mais si ce n'est pas encore le cas, ou si c'est un cas qui est un petit peu en sourdine, je veux dépoussiérer cela ce soir dans ton cœur. Pour te rappeler que quand tu viens rendre le culte à ton Dieu, c'est un moment spécial et particulier. Alors, si vous voulez bien, nous allons regarder dans le psaume 103. Et nous allons voir, après la mise en place faite par le Seigneur, Jésus-Christ, par son esprit, regardez avec moi comment le psalmiste, en l'occurrence c'est David, et je sais que mon frère Marc aime beaucoup ce psaume parce que quelquefois il le cite, mais nous allons nous y arrêter ce soir et regarder comme c'est intéressant. Psaume 103 de David. On peut même le lire ensemble si vous voulez. Allons-y. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie, pardon, de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et nous disons là, amen. Puis nous allons vers la fin du psaume, à partir du verset 20, et nous reprenons la lecture. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, alléluia. Dans d'autres psaumes ou ailleurs, aimez par exemple dans le psaume 34, au verset 2, nous voyons le psalmiste déclarer: je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Le moment où il est conduit à s'exclamer, à s'exprimer ainsi, il y a la raison qui nous est donnée. Lorsqu'il contrefit l'insensé et qu'il s'enfuit chassé par lui devant Abimélec. Donc, c'est un moment particulier pour le psalmiste, une épreuve, un moment délicat, mais ça n'empêche en rien qu'il s'exprime, s'exclame et déclare: je bénirai l'Éternel en tout temps. Alléluia. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Tiens, regardez le psaume 23. L'Éternel est mon. Aussitôt après, je ne manquerai de rien. Alors, si l'Éternel est mon berger, Jésus-Christ est mon bon berger. Mais dans l'expression du psalmiste, dans le psaume 23, avant qu'il puisse déclarer sa réalité lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, après avoir dit qu'il ondule ma tête, il restaure mon âme, à un moment donné, il dit, Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Et vous savez que dans le formulaire des Écritures, la table dressée, c'est une image du service à rendre à Dieu. La table nous parle du service. Que veut-il montrer par là? Qu'à partir du moment où l'Éternel est devenu ou est mon berger, qu'il a oint d'huile ma tête, qu'il a restauré mon âme, il veut simplement exprimer que la proximité des ennemis n'est pas un problème pour moi. Mais oui, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis, adversaires. Ça veut dire que les adversaires, si la table est dressée en face d'eux, ils me voient. Et ils voient que je suis en train de servir mon Dieu. Et même si ça les dérange, moi je me réjouis en servant mon Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. C'est lui qui restaure mon âme. C'est lui qui me conduit dans le vert pâturage. C'est lui qui, en me conduisant dans le vert pâturage, me conduit aussi auprès des eaux paisibles. Donc, nous voyons que le psalmiste, le même qui a déclaré « Je bénirai l'Éternel en tout temps », sa louange sera toujours dans ma bouche. Ici, c'est pas lui qui bénit Dieu, mais mon âme. Et ça, c'est pas rien. Pourquoi il ne dit pas « Je bénirai l'Éternel » comme il l'a dit dans le psaume précédent, le psaume 34? Non, mon âme. Cela veut dire, lorsqu'il dit « mon âme », il faut que nous comprenions que notre âme, c'est la partie spirituelle. Où on peut définir le principe de la vie consciente de mon être. Et mon âme a conscience de Dieu. Mon âme a conscience de la grâce, de l'amour, de la bonté de Dieu en ma faveur. Mon âme a conscience de l'alliance dont je suis l'objet de la part de mon Dieu. Mon âme a conscience du refuge qu'elle a trouvé en Jésus-Christ. Mon âme a conscience de cette paix intérieure dans laquelle Dieu m'a introduit lorsque j'ai cru pour le salut. Pourquoi? Parce que mon âme a trouvé en Jésus-Christ le vrai repos. Il n'y a plus d'agitation dans mon âme. Tranquillité intérieure. Découlant de la sécurité. Procurant de l'assurance. Introduisant des certitudes. Et même lorsque je serai devant les portes du séjour des morts, eh bien, je comprends que Jésus m'a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pourquoi, comme enfants de Dieu, ce soit vous comme moi, nous nous réjouissons en notre Seigneur en lui rendant ce culte, car un des aspects ô combien importants et pas du tout négligeables, c'est que par son œuvre à la croix, Jésus, notre Seigneur, en vainquant le diable, il a en même temps délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il faut que je tire les amènes petit à petit. Maintenant, ça devait jaillir. Dans l'Apocalypse, Jésus nous rappelle ceci. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Voici, j'étais mort et je vis au siècle des siècles. Et qu'est-ce qu'il rajoute après? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors quand je viens rendre le culte à mon Dieu, ce sont autant d'aspects que le Saint-Esprit met en évidence. Et vous savez ce qui va découler de cela? Mon âme bénit l'Éternel, dit le psalmiste. Mais aussitôt après, et n'oublie, ça veut dire que l'âme, mon âme, est plongée dans une profonde reconnaissance. Oh, frères et sœurs en Christ, ce que nous partageons ce soir, c'est pas moi qui l'ai rêvé ni créé, c'est ce que le Saint-Esprit m'a donné à considérer pour pouvoir être dans la main de Jésus-Christ, un serviteur établi pour donner la nourriture au temps convenable. Et dans l'aspect du culte à rendre à nos dieux, à notre Père, non seulement pour ce soir, mais comme un enseignement qui sera bénéfique tout au long de notre marche avec Jésus-Christ. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Soit je regarde en rendant les hommages, j'admire, je contemple, je m'extasie et aussitôt je me souviens. Et s'il y a quelque chose dont chacun d'entre nous nous, nous souvenons ce soir, c'est l'expérience que nous avons faite lorsque la révélation de Jésus nous a été apportée suite à la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour ma part, ça fait cette année 38 ans, je crois. 1983, c'est ça, hein? 38 ans. Mais pour moi, c'était comme si c'était hier. Et fort souvent, dans ma relation avec mon Dieu, je ne cesse de le remercier de ce qu'un jour il s'est arrêté sur ma misère. Oui, je puis dire que Dieu non seulement s'est arrêté sur ma misère, mais mieux que ça, dans les temps qui ont précédé ma conversion, Dieu a déployé toute une série de choses qu'il a contrôlées, parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais après, quand j'ai rencontré Jésus, quand je suis rentré dans le plan de salut, j'ai dit, Seigneur, maintenant je comprends. Tu étais en train de diriger les choses à mon insu. Dieu a canalisé par là, il a dirigé par là, il a bloqué par là, il a ouvert par là. Mais dans tout ce qu'il préparait, il a laissé un petit chemin où j'étais obligé de passer. Ah, mais Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Oui, je ne cesserai de remercier mon Dieu. Oh, on n'allait pas dire que le pasteur gentil est parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas autre chose qu'un misérable pécheur à qui Dieu a fait grâce. Mais je sais qui j'étais. Je sais l'expérience que j'ai faite avec lui dans la rencontre pour le salut. Je sais ce que je suis devenu. Et puis je sais ce que je suis appelé à être. Tout est dans l'Écriture. Voilà pourquoi ce soir, comme le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Et lorsqu'il dit que tout ce qui est en moi, ce n'est pas ce qui est sur le plan physique, mais c'est son cœur, son esprit, son âme, toute la partie spirituelle qui a conscience de Dieu. Parce que je vous dis que l'âme, c'est le principe de la vie consciente de mon être, qui a conscience de Dieu et qui sait véritablement, après avoir fait l'expérience, comment la main de Dieu, la grâce de Dieu, le secours de Dieu en Jésus-Christ, il a expérimenté. Oh, s'il n'a rien expérimenté, quelle reconnaissance voulez-vous apporter? Mais lorsque quelqu'un... Bon, écoutez, pendant que je vous parle là, frères et sœurs en Christ, il y a une pensée que le Saint-Esprit me donne. Et cela se trouve dans l'Évangile de Luc. C'est un récit, ne cherchez pas, je ne vais pas donner de référence, ne cherchez pas. C'est le récit de l'Évangile de Luc où un pharisien a invité Jésus à prendre un repas chez lui. Pharisien, secte religieux très puissant et influent à l'époque de Jésus, doctrine attachée à la loi de Moïse, mais malheureusement, laissant quelques aspects de la tradition des pères prendre le pas sur la loi de Moïse qui venait de Dieu. Et ce pharisien, dès lors que Jésus est entré dans sa maison, la Bible nous dit que, et voici une femme pécheresse ayant su que Jésus était dans la maison de Simon, il s'appelle Simon, elle vint avec un vase rempli de parfum, un vase d'albâtre rempli de parfum. Et puis, lorsqu'elle est rentrée dans la maison de Simon, elle va se diriger directement aux pieds de Jésus. Et son attitude
Elle va commencer à pleurer sur les pieds de Jésus, et puis elle va essuyer, en versant le parfum sur les pieds, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses beaux cheveux. Et puis, Monsieur Simon va avoir une attitude. Il ne va pas prononcer des paroles, mais tout se passe à l'intérieur de Simon, dans son cœur. Et dans le cœur de Simon, voici la réflexion et la pensée. Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Simplement, le fait de penser ça montre qu'il ne connaissait pas qui était Jésus. Vous savez ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit, Simon, ta pensée n'est pas bonne. Non. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Mais parle, maître. Simon, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 50 deniers et l'autre devait 500 deniers. Alors, comme aucun ne pouvait payer, alors il leur remit la dette à tous les deux. Alors, lequel, Simon, selon toi, l'aima le plus? Des fois, on a le jugement exercé pour les choses de la terre. Simon a dit, eh bien, celui à qui il a le plus remis, c'est plus. Eh bien, Jésus va dire à Simon, tu vois, Simon, il va maintenant amener les choses sur le plan, le terrain spirituel. Tu vois, Simon, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné un baiser. Et depuis que je suis entré, cette femme n'a fait que baiser mes pieds. Pour baiser les pieds de Jésus, je me suis laissé à la pensée qu'il fallait qu'elle descende aux pieds du Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes sur le terrain de l'humilité. On n'a pas honte de s'humilier devant Jésus. Parce que, différemment de Simon, la femme pécheresse savait qui était Jésus. Et elle savait que le seul qui ne le mettrait pas dehors de la maison de Simon, c'était Jésus. Voilà pourquoi elle est allée directement au pied du Seigneur. Ce soir, ne va pas au pied d'un pasteur, ne va pas auprès d'un homme. Mais si tu as un problème, une souffrance, une attente, va au pied de Jésus. Rendons le culte à Dieu, va au pied de Jésus. Et laisse, même si tu pleures, tu verses les larmes, mais il a non seulement la capacité de savoir la raison de tes pleurs, mais dans les psaumes, il est dit que tu entends la voix de mes larmes. Jésus peut entendre la voix d'une larme. Oh, mes bien-aimés, quel être extraordinaire. Le cantique dit, quel sauveur merveilleux je possède. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, je puis vous dire ce soir que Jésus, c'est l'être le plus extraordinaire, le plus merveilleux, le plus glorieux, le plus aimant. Et en rendant le culte à Dieu ce soir, en regardant, en l'admirant, en le contemplant, en s'extasiant, eh bien, Jésus nous rappelle par son esprit d'où Dieu nous a tirés. Et comme le psalmiste, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis entré dans ta maison, Simon, tu ne m'as pas donné un baiser, mais depuis que je suis arrivé, elle a baisé mes pieds. Après, elle a mouillé mes pieds avec ses larmes, puis elle les a essuyés avec ses cheveux. C'est pourquoi, Simon, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Quelle expérience merveilleuse. Quand Simon a entendu ça, certainement qu'il n'était pas content. Hein. Écoutez, pharisiens s'estiment mieux que les autres. On est sur un piédestal. On est influent dans le pays. Fait partie d'une secte religieuse très puissante. Ils avaient de l'influence, cette catégorie de personnes. Mais Jésus s'est arrêté sur les cas les plus misérables. Les situations les plus délicates. N'est-ce pas lui qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » Tiens, un exemple. Le grand jour de la fête. Ça se passe à Jérusalem. Si c'est la fête, tout le monde monte pour se réjouir. Et pour les Juifs à cette époque, lorsqu'il y avait les fêtes de l'Éternel, c'était des fêtes qui étaient respectées. Mais voici que Jésus va monter à la fête. Et lorsqu'il arrive sur la route qui mène à la fête, hop, il pointe déviation. Où ? La flèche, c'est moi qui le dis, piscine de Bethesda. C'est une image que je prends. Pourquoi ? Parce que dans cette piscine, il y avait un grand nombre de malades. Des estropiés, des infirmes, des boiteux, des malades qui attendaient, qui espéraient. Quoi ? D'avoir la priorité en un jour particulier, car de temps en temps, un ange descendait agiter l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau après qu'il eût été agité était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans de maladie, c'est pas rien, c'est toute une vie. Et quand Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malheureux, la réponse qu'il fait à Jésus, elle est bonne par rapport à ce qu'il vit. Mais de notre côté, il est aussi dans un temps particulier où il ne connaît pas qui est celui qui lui pose la question. Alors, s'il connaissait qui est celui qui lui pose la question, automatiquement, il s'en serait remis à lui. C'est pourquoi je t'ai dit, si tu as un souci, un problème, une difficulté, mais remets-toi au pied de Jésus. Que Jésus lui pose la question, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau et pendant que je vais, quand l'eau est agitée, un autre descend avant moi. Vous avez dit que dans cette piscine de Bethesda, il y a quelque chose qui prévaut, c'est l'égoïsme, chacun pour soi. Oui, écoutez, si de temps en temps, l'ange descend pour agiter l'eau, tout le monde a les yeux fixés sur la piscine. Ce soir, fixe pas tes yeux sur la piscine. Lui, il avait toujours les yeux sur la piscine alors que Jésus était devant lui. Mais comme il ignorait qui c'était qui lui posait la question, la preuve, après qu'il ait été guéri, on lui pose la question, il ne savait pas qui c'était. Mais tu peux ne pas savoir qui est Jésus, le connaître en profondeur, mais tu peux expérimenter ce que ses mains sont capables de faire. Alléluia. Alors, frères et sœurs en Christ, ce soir, puisque nous sommes venus rendre le culte à notre Dieu, rendre le culte, c'est rendre les hommages en regardant. Rendre les hommages en admirant. Rendre les hommages en contemplant. Et rendre les hommages, pour terminer, en s'extasiant. Nous contemplons notre Maître ce soir, et lui, parce que nous le contemplons, il nous fait regarder au Père, le contempler, et aussitôt après, se rappelant, se souvenant, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et l'un des aspects particuliers dans le culte que nous sommes venus rendre à Dieu, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Action de grâce. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, il y avait une offrande qu'on appelait le sacrifice d'action de grâce. Et ce sacrifice d'action de grâce était aussi nommé ou défini comme offrande de paix. Sacrifice d'action de grâce était aussi appelé offrande de paix. Il venait après le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'expiation. Nous sommes là sur le terrain, frères et sœurs en Christ, ô combien important, de ce qui découle pour nous, comme enfants de Dieu, du sacrifice de Jésus, qui s'est d'abord livré pour Dieu. N'oublions jamais qu'il s'est livré pour Dieu. Mais quand je viens lui rendre le culte, quand je le regarde, quand je le contemple, quand je l'admire, quand je m'extasie devant sa majesté, sa gloire et son autorité, alors il y a cet aspect ô combien important que le Seigneur met en évidence de ne pas oublier, eh bien, ce dont j'ai été l'objet, c'est-à-dire qui découle de son œuvre à la croix du calvaire, et qui devient pour moi le centre primordial d'intérêt et le fil conducteur du culte qui va manifester la reconnaissance à l'égard de Dieu qui m'a donné Jésus, à l'égard de Jésus qui a livré sa vie et qui m'amène à vivre cette vie de paix. Romains 5:1 nous en donne un aperçu. Ainsi donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons faibles. Et après, il montre qu'à cause de cela, que nous nous réjouissons même des épreuves. Parce que nous savons que dans la finalité, notre Seigneur a toujours le dernier mot, en toute chose. Et comme nous l'avons vu dernièrement, lorsque nous avons vu Jésus-Christ notre refuge, il nous a été rappelé que le juste, il trouve un refuge, même en la mort. Oh, je sais que c'est pas un verset qui nous fait beaucoup plaisir. Mais lorsque nous sommes confrontés pour arriver devant les portes de l'éternité, lorsqu'on est juste aux yeux de Dieu, on est justifié par la foi. La justification par la foi nous place au bénéfice du sang précieux de Jésus. Et oui, parce que la paix que nous avons reçue, c'est la paix de Dieu. C'est la paix en Dieu. C'est la paix de la part de Dieu. Ça veut dire que la paix, la source de cette paix, elle émane de Dieu, qui nous la communique par Jésus-Christ dans l'action du Saint-Esprit, et ça découle de l'œuvre de la croix. Encore une raison supplémentaire de lui rendre les hommages ce soir. En le regardant, en l'admirant, en le contemplant et en m'extasiant devant ce que je vois. Alléluia. Je vous dis que lorsqu'on s'extasie, les paroles sont peu nombreuses. Mais on est dans une telle admiration que les mots, aussi grands peuvent-ils être, n'ont pas tellement de valeur. On se tait et on contemple. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Non pas sur la terre, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, oui, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Amen. Je te contemple, mon roi. Alléluia. Et quand je contemple le roi, mon regard se détourne de toute autre personne. Je suis venu pour contempler mon roi ce soir. Je suis venu pour lui apporter ma reconnaissance. Je n'oublie pas d'où il m'a sorti. Et si, comme le cantique dit, compte les bienfaits de Dieu, s'il fallait que nous comptions les bienfaits de Dieu, vous savez ce qui se passerait? Dites-moi, nous en oublierions beaucoup. Mais oui, mes bien-aimés, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et aussitôt après qu'il dit « n'oublie aucun de ses bienfaits », il amène sur le terrain du pardon. Et s'il y a une reconnaissance ce soir que le Seigneur attend de moi, même si ça fait 38 ans, il vit que je le vis, il veut que je le vive comme un présent, là, maintenant. Et je voudrais vous amener à la déclaration de l'apôtre Jean, envoyé à l'Église primitive, soit dans la lettre destinée aux petits-enfants, aux jeunes gens et aux pères. Je vous écris, petits-enfants, première chose, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de soi. premier âge, première expérience, mais qui va déterminer toute la vie chrétienne. Car c'est la base même, non seulement de l'entrée dans le salut, mais c'est le fondement même de l'expérience qui va amener la nouvelle naissance. Et comme je vous ai dit, en entrant en matière, ce n'est pas le psalmiste qui bénira l'Éternel en tout temps, comme le psaume 34, mais c'est mon âme. Ah, mon âme bénit l'Éternel. Parce que notre âme, la vie consciente de mon être, est dans la réalité de l'expérience du pardon. Parce que auparavant, lorsque mes péchés témoignaient contre moi, lorsque mon âme était noire à cause du péché comme un morceau de charbon, elle était incapable d'être objectif quant au salut de Dieu en Jésus-Christ. Elle était dans la souffrance, dans la misère, dans la douleur, dans l'égarement des ténèbres. Mais une fois qu'elle a expérimenté le salut, les choses ont changé. Là où il y avait la noirceur comme un morceau de charbon, les ténèbres, alors à l'intérieur, c'est devenu ruissellant comme une rivière de diamants. Ça ruisselle. Et vous comprenez pourquoi, frères et sœurs en Christ, après avoir fait l'expérience du salut, l'apôtre dit, réjouissez-vous! Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Celui qui dit ça, il était en prison. Il était en prison, mais son âme était dans une telle liberté qu'il pouvait exhorter les autres. Et la prison, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. C'était une espèce de cachot avec toutes sortes de situation qui n'est pas du tout glorieuse, mais il écrivait, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que lui, à l'intérieur, il était dans une telle liberté, son âme, après l'expérience du salut, était dans une telle gloire, c'était tellement florissant pour lui qu'il était inconcevable que cela soit accompagné de tristesse, et ce, quelle que soit la situation et les épreuves auxquelles on est confronté. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parlez-vous. Un enfant de Dieu, lorsqu'il est dans la communion avec son Dieu, certes, il y a des épreuves, mais il y a quelque chose en lui qui danse de bonheur. Son âme bondit de joie, son âme exulte à l'éternel. Et ainsi, comme le psalmiste, son âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne tous tes péchés, toutes tes iniquités, celui qui pardonne toutes tes iniquités. Et puis, voici ce qu'il dit et qui guérit toutes tes maladies. Tiens, au moment où le psalmiste déclare cela, la révélation amenée par le prophète Ésaïe n'a pas encore eu lieu. Vous me suivez un petit peu, n'est-ce pas? Parce que Ésaïe va venir plus tard. Et lorsque l'oracle divin va lui être révélé concernant la personne de Jésus, eh bien, il amènera la réalité, il a pris nos douleurs, il s'est chargé de nos maladies. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes toujours d'accord, n'est-ce pas? C'est Ésaïe 53, verset 6, je crois. Mais là, le psalmiste commence déjà, en bénissant Dieu, il s'exclame, le glorifique, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et voici qu'il rajoute, et qui guérit. Ah! Alors que fait-il à ce moment-là? Vous savez ce qu'il fait, le psalmiste? Comme homme de Dieu, il s'appuie sur l'Écriture. Il s'appuie sur l'Écriture. Car il n'y a que dans l'Écriture que les références sont données et peuvent être trouvées. Alors j'ai regardé cela de près, puisque nous ne sommes pas encore sur le terrain prophétique d'Ésaïe 53 nous amène en route à Jésus, mais dans un moment particulier de l'histoire du peuple de Dieu. Dieu va se révéler comme Yahvé Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais Dieu va coordonner son intervention et sa guérison strictement à l'observation de sa parole. Voulez-vous le voir avec moi dans l'Écriture? Bon, vous n'êtes pas très enthousiaste, hein? Voulez-vous le voir avec moi dans l'Écriture?
Oui. Alors, puisque vous le voulez, voyons-le ensemble. Allons avec moi dans Exode 15, verset 26. Exode 15, 26. Et regardez comment, déjà, dans un moment particulier de l'histoire d'Israël, nous sommes dans les temps qui précèdent, non, qui succèdent, pardon, qui suivent, si vous préférez, la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge et l'engagement par le chemin du désert vers le pays de Canaan. Et c'est à ce moment-là, dans une étape particulière, appelée l'étape de Mara, que Dieu va profiter pour donner sa parole suite à cette expérience. Regardez avec moi. Exode 15, 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Donc Mara, c'était autant le lieu, et ce lieu a été nommé Mara à cause de cette eau amère. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint encore plus amère. Ah ! Et l'eau devint douce. Ce fut là, et quand je dis ce fut là, et on peut même comprendre, ce fut là, après cette expérience, après que Dieu soit intervenu, que l'Éternel donna au peuple, dites avec moi, des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à... Ah, donc le peuple a été mis à l'épreuve. Où ? À Mara. Étape symbolique. Mara, sur le chemin du désert. Verset 26, on le met à l'épreuve, Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Donc je suis l'Éternel qui te guérit. Donc déjà, nous voyons que Dieu avait déjà donné cette parole, mais qui est accompagnée de conditions. Conditions qui lui permettraient d'intervenir pour guérir. Mais n'allez pas croire, frères et sœurs en Christ, qu'à l'étape de Mara, tous ceux qui étaient là étaient malades. Non, pas du tout. C'est pas ça. Car si Dieu les amène là à Mara, Dieu n'a pas amené à Mara un peuple malade. Mais il a amené un peuple qu'il avait sorti d'Égypte. Il a amené un peuple pour qui il avait un plan. Il a amené un peuple qui était sous sa main, gouverné. Mais dans l'étape de Mara, nous l'avons lu, c'est là que Dieu les a mis à l'épreuve.
pour le montrer,
comme cela est écrit dans le Deutéronome, que Dieu les a éprouvés, afin de savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur, Deutéronome 8, afin de leur apprendre que l'homme ne vit pas que de paroles seulement, que de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est écrit ou pas? Oui, c'est écrit. C'est le même principe. Parce que, frères et sœurs en Christ, Dieu veut nous montrer par là que sa parole, c'est un médicament pour notre âme. Et même quelquefois, la parole de Dieu peut nous donner de l'énergie sur le plan physique. Ça a l'air de rien. Mais Dieu est capable de faire en sorte que sa parole que je reçois, que je garde, produise en moi de l'énergie, autant sur le plan spirituel que sur le plan humain. Ce sera la santé pour tes muscles, mais aussi un rafraîchissement pour tes os. Quoi, ma parole, quand tu la garderas? Eh bien, moi, frères et sœurs, quand je comprends ça, je me dépêche d'aller aux pieds de Jésus. Je fais ce que dit le psaume 37, 5. Je lui recommande mon sort. Je mets en lui ma confiance. Oh, n'allez pas dire que le Seigneur va toujours me guérir, c'est pas ça. Le Seigneur est souverain sur ma vie. Quelqu'un avant moi dit 3 fois, il a prié, que le Seigneur lui débarrasse d'une écharpe qu'il avait dans la chair. Mais Dieu a estimé, en lui disant « ma grâce te suffit », ça veut dire « tu vas pouvoir vivre avec ». Et même quand tu vivras avec, moi je vais t'utiliser malgré cela. « Ma grâce te suffit ». Mais il y a des fois, le Seigneur estime dans sa souveraineté, il nous laisse avec cet intard dans la chair. Mais ça n'empêche en rien, ce n'est pas la chair, c'est mon âme. Gloire à Dieu. Voici la conclusion. La conclusion, elle est celle-ci, mes bien-aimés. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Yahvé Rapha. Et puis, pour conclure, verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources et 70 palmiers. Douze sources d'eau et 70 palmiers. Et quand il fait après? Ils campèrent là. Ils n'ont pas campé à Mara, hein, amertume. Et même quand Dieu a adouci l'eau, ils n'ont pas campé. Oh, j'ai essayé de regarder quelle distance il y avait entre Mara et Élim, mais je n'ai pas eu le temps de creuser assez profondément. Mais je pense qu'il y avait quand même une certaine distance. Cela veut dire que Dieu ne veut pas que nous restions sur une expérience négative. Ils ne sont pas restés auprès de Mara. Mais ils ont continué jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Élim. Alors, nous sommes sur l'image de l'importance de la persévérance. Il ne faut pas regarder l'épreuve comme un échec, mais le regarder plutôt comme un moyen divin qui travaille afin que de mieux en mieux, je puisse continuer sur le chemin de la persévérance. Et lorsqu'ils arrivent à Élim, Élim signifie littéralement grand arbre ou arbre, palmier, il y avait 12 sources d'eau. Et je crois que l'invocation de 12 sources d'eau et de 70 palmiers, ici, dans ce contexte-là, je ne crois pas que ce soit le hasard. Si vous voulez dire que c'est le hasard, libre à vous. Mais pour moi, il n'y a rien dans la Bible qui est le fait du hasard. Non, il y a quelqu'un qui gouverne tout. Et les 12 sources, nous mettons en image, eh bien, soit les 12 tribus d'Israël, dans un autre contexte, mais plus sous l'aspect évangélique, 12 apôtres. Quel était leur rôle ? Chargé de véhiculer la parole de Dieu. La parole de Dieu, une source d'eau pour celui qui la reçoit, qui désaltère ton âme. Et quand ton âme est désaltérée, psaume 103, verset 1er, mon âme... palmiers. Jésus avait envoyé 70 disciples en mission. Même principe, mais 70 palmiers. Ce n'est pas 70 sources, c'est 70 palmiers. Et derrière le chiffre 70, il y a l'aspect de l'importance du gouvernement divin. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura dans le palmier, 70 palmiers, le palmier c'est un arbre particulier qui nous parle de la prospérité, mais cette prospérité, il la tient même dans un lieu désertique par sa capacité de faire sortir ses racines et puis de les enfoncer profondément, profondément dans la terre, même dans la terre désertique, à la recherche des nappes phréatiques. Et vous regarderez fort souvent, le palmier, c'est un arbre qui porte toujours beaucoup de fruits. Le désert, ce n'est pas un problème. Deuxièmement, le palmier, quand vous le regardez, fort souvent, vous ne verrez jamais un palmier grandir comme ça. Rectiligne, la droiture. Droiture, droit, haut, communion. Derrière ces 70 palmiers, Dieu nous parlait de l'importance de la manière qu'il va diriger pour confier le gouvernement, autant le gouvernement humain que le gouvernement divin. Il a envoyé 70 en mission. Mais en les envoyant 70 en mission, il leur a donné le pouvoir de guérir les maladies, de chasser les démons. Est-ce que nous sommes disciples de Jésus ce soir ? Alors notre âme en nous ce soir, dans ce culte que nous sommes venus lui rendre, ne peut faire autre chose que s'élever pour le bénir. En le bénissant, nous lui rendons les hommages. En lui rendant les hommages, nous le regardons. En le regardant, nous l'admirons. En l'admirant, nous le contemplons. Et en le regardant, l'admirant, le contemplant, nous extasions de cette image que nous voyons de sa personne glorieuse. Alors parce qu'il en est ainsi, alors notre âme s'élève à lui pour le bénir, le célébrer, le glorifier, l'exalter, l'honorer, le magnifier. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Prions le Seigneur.